Avec vous quelques réflexions sur simplement deux versets qu'on trouve à la fin de la Bible, dans les derniers livres, l'épître de Jude, qui est une lettre très brève. On va lire simplement les deux premiers versets. L'épître de Jude, les deux premiers versets. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Gloire à Dieu. Dans tout ce qui va suivre, l'apôtre Jude va enseigner les croyants sur des choses quand même assez solennelles, avec des avertissements, etc. Mais avant de leur adresser ces avertissements, il veut leur rappeler trois éléments fondamentaux. Et je prie pour que le Saint-Esprit les ravive en chacun d'entre nous, en s'adressant aux croyants, il leur rappelle trois choses. Ils ont été appelés un jour, ils ont été appelés, ils sont aimés en Dieu le Père, ils sont aimés et ils sont gardés pour Jésus-Christ. Et je crois que nous avons besoin de ne jamais nous accoutumer à ces trois bénédictions infiniment précieuses. Tout a commencé pour nous par l'appel que Dieu nous a adressé. Amen. Vous vous souvenez certainement de ces premières réunions auxquelles vous avez assisté, vous avez entendu l'évangile pour les premières fois, et où, à travers les prédications, Dieu a interpellé votre cœur. Et il nous est impératif de nous remémorer de quelle manière Dieu nous a appelés. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, vous voyez, après 52 ans de marche chrétienne, je comprends toujours pas pourquoi Dieu a pris le temps et la peine de porter ses regards sur l'adolescent insignifiant que j'étais. Pour la sécurité sociale, j'étais un matricule. Pour la société des hommes, j'étais un incognito, mais le grand Dieu du ciel a porté son attention sur un individu apparemment sans importance, mais auquel il accordait de l'importance. Et mon frère, ma sœur, il est important que tu laisses le Saint-Esprit te raviver le souvenir de l'appel que Dieu t'a adressé. Parce que tout a commencé là. L'appel de Dieu a tout changé. L'appel de Dieu a tout bouleversé. L'appel de Dieu nous a orientés vers la destinée qu'il avait prévue de toute éternité pour chacun d'entre nous. Jadis, nous étions errants, vagabond, plongé dans l'ignorance, éloigné de Dieu, asservi au péché, et un jour, il nous a appelés. Et tout a changé. L'Écriture est remplie d'exemples où Dieu prête une attention et un intérêt particulier pour un individu, pour un homme, un enfant, une femme, dans des circonstances très spéciales. Par exemple, dans un désert, il y a une femme absolument désespérée, sa faible réserve d'eau est épuisée, son bébé pleure, elle est sans secours, elle est sans recours, elle n'a pas de perspective, elle est devant une issue fatale. Et la Bible nous dit que du ciel, Dieu a entendu la voix de l'enfant et Dieu a appelé Agar. Agar, qu'as-tu ? Et vous connaissez la suite de cette merveilleuse histoire. La destinée de cette femme perdue a changé. Dieu lui ouvre les yeux et elle s'aperçoit que tout près d'elle, il y a une source. Et le secours de Dieu lui est accordé. Un homme est là, plongé dans le paganisme le plus sombre, à Ur, en Chaldée, et puis Dieu l'appelle. Dieu appelle Abraham. Il se révèle à lui. La destinée de cet homme change complètement. Et de païen ignorant et perdu, il devient le père des croyants. Et d'une certaine façon, ben nous sommes quand même issus de cet homme qu'un jour Dieu a appelé. Il y a de nombreux exemples dans les Saintes Écritures. Un homme est en train de garder les troupeaux de son beau-père et de loin, dans le désert, il voit un buisson qui s'enflamme spontanément, et c'était un phénomène assez courant avec la combinaison de la chaleur et des gaz produits par les végétaux. Il arrivait parfois que les végétaux s'enflamment. Mais là, ce qui a intrigué Moïse, c'est que ce buisson s'était mis à flamber, mais qu'il ne se consumait pas. Alors il s'approche pour en savoir un peu plus, et là, Dieu l'appelle. La voix du Seigneur l'interpelle, et la destinée de cet homme, ce fuyard, perdu dans son désert, va changer. Et il va devenir le libérateur du peuple d'Israël, asservi en Égypte, sous le joug du Pharaon. Un enfant, en pleine nuit, dort paisiblement. Et il entend audiblement, fortement, son nom, Samuel. Samuel, ça le réveille. Il ne comprend pas tout de suite, mais il finit par comprendre que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. On pourrait multiplier les exemples. Jésus a appelé. Il a appelé certainement des personnalités que nous n'aurions pas choisies, mais il les a appelées. Et puis, un jour, le Seigneur a croisé ton chemin et il t'a appelé. Peut-être y a-t-il parmi nous des bien-aimés qui, à l'âge de l'enfance, à l'école du dimanche, ce dimanche-là en particulier, ce dimanche-là, eh bien, ce fut l'appel de Dieu et ça a bouleversé leur cœur. Je me souviens, la plus jeune de mes filles, Evie, s'est convertie pendant une colo que nous faisions et on avait fait une veillée spirituelle avec un récit de l'Évangile, un moment de prière, etc. Les équipes ont regagné leur dortoir et l'équipe de ma petite, c'était des enfants de 7-8 ans, il y en a une qui a dit à sa monitrice, quand même, on va pas se coucher sans remercier Jésus. Et la monitrice a dit, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, elle a dit, écoutez, allez, venez les enfants, toi, alors commence, vas-y. Et mes amis, lorsque la petite a commencé une prière toute simple, le Saint-Esprit a visité tout le groupe là. En 2-3 minutes, toutes les petites, elles étaient une dizaine, elles étaient en larmes et elles étaient en train de donner leur cœur à Jésus. Et Évie, ma plus jeune, a donné son cœur à Jésus à cet âge-là. Et dans ce contexte-là, Dieu a appelé et la destinée a changé. Je crois que l'appel mystérieux que Dieu nous a adressé doit alimenter en nous une reconnaissance intarissable. Faites-moi un gros amen. Alléluia. Mais oui, comment ne pas s'émerveiller devant ce mystère du Dieu éternel qui daigne appeler des êtres insignifiants, mais auxquels il accorde un intérêt primordial, majeur. Le Seigneur nous a appelés et Jude, dans son cœur, se sent inspiré, il se sent poussé de rappeler aux croyants cette première grâce. Dieu les a appelés. À ceux qui ont été appelés, écrit Jude, qui sont aimés en Dieu le Père. Ça, c'est la deuxième grâce précieuse sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. À ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Moi, je dis une chose. C'est qu'on ne peut pas connaître l'amour véritable si on ne le découvre pas dans le Seigneur. L'amour véritable ne peut trouver sa source qu'en notre Dieu, car la Bible nous dit « Dieu est amour ». Au plan naturel, il y a des formes affectives. Il y a l'amour de l'époux, il y a l'amour de la maman, il y a l'amour du collègue, il y a de la sympathie, il y a de l'amitié, il y a des formes d'amour. Toutes les formes d'amour, les plus admirables qu'elles soient, seront en dessous de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et tu vois, mon frère, ma sœur, lorsque tu es assailli par une tourmente, rappelle-toi que tu es aimé de Dieu. Et laisse le Saint-Esprit te rappeler que d'une façon personnelle, tu es l'objet de l'amour de Dieu, ton Père céleste. À ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père. Mais mes amis, quand on découvre l'amour merveilleux que Dieu nous porte, ça nous transporte, ça nous transforme, ça nous enrichit, ça change la vie. Oui ou non, de se savoir aimé de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est un fleuve qui véhicule une richesse de bénédiction incomparable. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et l'amour de Dieu correspond à cette attitude d'un Dieu qui donne. Dieu donne parce qu'il aime et parce qu'il aime, il donne. Et c'est quelque chose d'absolument essentiel. À quoi ressemblerait une marche chrétienne si elle n'était pas motivée par une relation d'amour entre le Dieu sauveur et le chrétien racheté. Ça deviendrait une carapace vide, une forme figée, mais creuse, ce qui va faire la beauté, la puissance, la richesse, la saveur, la fraîcheur, la vie de ta marche chrétienne, c'est cette relation sans cesse renouvelée de l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et une visitation du Saint-Esprit qui répand en toi l'amour de Dieu va surpasser toutes sortes d'explications théologiques, cérébrales, froides, etc. L'amour de Dieu qui va envahir ton cœur. L'amour de Dieu répare en nous tous les dommages qui peut-être nous ont été infligés dans telle ou telle circonstance. L'amour de Dieu édifie, autrement dit construit. Peut-être dans un domaine personnel, tu as été démoli, l'amour de Dieu a ce pouvoir d'édifier, de construire et de reconstruire. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu enrichit. L'amour de Dieu anoblit. Nous confère une identité. Si tu es au Seigneur, l'objet de son merveilleux amour, tu ne peux plus être comme une marionnette que l'ennemi manipule à sa guise. Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es aimé de Dieu. Et l'amour que Dieu te porte te confère une identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'objet de l'amour du Dieu éternel. Et cela t'accorde, te confère une noblesse, un rang, une autorité même spirituelle. Tout cela, c'est le fleuve de l'amour de Dieu qui le draine sur son cours. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Je prie pour que, s'il y avait de la crainte, un questionnement angoissé, stressé dans le cœur de l'un d'entre nous, que la crainte disparaisse et que l'amour de Dieu te rassure et te sécurise. Alléluia! L'amour de Dieu, c'est pas simplement une théologie froide. L'amour de Dieu, c'est une vie spirituelle. C'est une expérience spirituelle. C'est mon être intérieur qui est rafraîchi, qui est irrigué, qui est fertilisé, qui est béni par cet amour merveilleux. L'amour de Dieu nous rassure. L'amour de Dieu nous permet d'envisager l'avenir sereinement. Même lorsque les prophéties les plus angoissantes s'accomplissent sous nos yeux, l'amour de Dieu nous sécurise et nous donne de rester en paix, que le Seigneur soit béni. Et vous savez quoi? L'amour de Dieu, il est contagieux. Parce que l'amour de Dieu nous rend à notre tour capables d'aimer comme Dieu aime. Amen. L'amour de Dieu se conjugue et se vit dans la réciprocité. Comment ne pas aimer ce Dieu merveilleux qui m'a aimé le premier? Et brusquement, dans le plus profond de ma personnalité, je vais commencer à expérimenter à mon tour une capacité d'aimer. Et je prie le Seigneur pour que aucune circonstance négative ne réussisse à atrophier et à figer ma capacité d'aimer. Vous le savez, le plus grand commandement, c'est « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Être rempli de l'amour de Dieu produit en moi une transformation, je suis libéré de mon égocentrisme, mes entrailles étroites se dilatent et je suis rendu capable d'aimer à mon tour. Pourquoi vous êtes venu ce soir alors qu'il y a le froid là qui... Mais parce qu'il y a un amour pour Dieu qui vous porte. Oui ou non? Hein? Mais oui, alléluia, gloire à Dieu. Et là, c'est merveilleux déjà. Mais vous savez qu'il y a dans certains pays de virulentes persécutions où les chrétiens vivent leur foi avec une ferveur, avec une consécration admirable. Nos envoyés de l'AEP ont visité des régions en Inde. Et avec Joe Santana et Claude Huo, ils sont allés dans certaines régions. Et en revenant, ils nous ont fait des rapports. Moi, ça m'a humilié parce que devant cette démonstration d'amour, moi, je me trouve tellement en dessous. Et ils nous ont dit, frère, on a vu des choses formidables. On a vu des jeunes chrétiens qui habitaient des villages perchés dans les montagnes porter sur leur dos des chrétiens âgés et converger vers le lieu où l'on avait organisé une réunion de prière. Alors imaginez la scène, tous ces jeunes, disent, allez, papy, viens. Et ils ont, dans ces pistes caillouteuses, vous savez, escarpées, difficiles de pratique, ils ont convergé et le soir, à leur hache, la salle était remplie de croyants qui étaient descendus des villages, des maisons, des hameaux, des chalets. Ça, c'est le miracle de l'amour de Dieu. Parce que j'aime Dieu, lui qui m'a aimé le premier, parce que j'aime Dieu, ça transforme ma vie. Ça transforme mes attitudes, mes actions, mes réactions. Ça transforme mon comportement. Ça transforme mon mode de pensée. Parce que j'aime Dieu, il y a des choses qui vont passer avant d'autres choses. Quand à l'âge de 12 ans, Jésus dit « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », c'est déjà quelque chose qui nous parle. Un cœur qui brûle de l'amour de Dieu ressent des urgences, des priorités, des « il faut », des « il faut », « il faut ». Vous voyez, on pourrait bien sûr partager pas mal de témoignages. Je me souviens d'un mardi où avec ma jeune épouse, on était jeunes à l'époque, là, on s'était permis un dimanche soir et un lundi en famille à Lyon et nous étions au Puy-en-Velay. Et le mardi matin, nous arrivions près de la ville du Puy-en-Velay, c'était pas loin de midi, c'était donc normalement l'heure de manger, et quand un Arménien a faim, c'est important, hein, c'était l'heure de manger, et on arrive, je vois le panneau, le Puy-en-Velay, et dans mon cœur, je ressens une urgence. Et je dis à ma femme, on rentre pas à la maison. Ah bon? On va visiter tel couple. Mais quand on est porté comme cela, il y a des choses prioritaires qui deviennent secondaires, même pour un Arménien. On mangera plus tard, hein, mais il y a une urgence. Les intérêts de l'œuvre de Dieu prennent le pas sur l'habituel. Et effectivement, je vais, je me gare, je monte, et avant même de sonner à la porte, j'entends à travers la porte des vociférations, des cris. Pas possible. Je frappe, on m'entend pas. Il a fallu que je frappe fort. Et le chef de famille a fini par m'ouvrir, très très surpris de me voir sur le seuil. Il y avait des prétendus prédicateurs ambulants qui, derrière mon dos, étaient en train de visiter quelques jeunes couples nouvellement baptisés et qui étaient en train de les perturber avec des doctrines fallacieuses. Ils étaient en train de les troubler. Comme je suis entré, j'ai calmé ces gens, je les ai fait sortir, et je leur ai dit que c'était moi le pasteur de cette famille, n'est-ce pas? Il y a des choses que l'amour de Dieu en nous va nous communiquer, une inspiration, une direction, et ça devient prioritaire. Mon frère, ma sœur, que Dieu te remplisse de son amour et que cet amour divin puisse, gérer ta vie, tes décisions, tes choix, tes priorités, parce que j'aime mon Dieu, je choisis sa volonté. Je choisis ce qu'il a prévu pour moi. Parce que j'aime mon Dieu, alors je lui dis comme le Seigneur le lui a dit, non pas toutefois ce que je veux, mais Seigneur, ce que tu veux. Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir va adresser en toute sincérité cette prière? Seigneur, je ne connais pas mon avenir. J'ai du mal à gérer le présent. Mais il y a une chose qui est certaine. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, c'est la victoire. Et c'est la victoire possible, rendue possible, parce que un amour ardent brûle dans mon cœur pour ce Dieu qui, je le répète, m'a aimé le premier. Parce que j'aime mon Dieu, alors je choisis ses priorités. Parce que j'aime mon Dieu, je choisis aussi d'aimer le peuple de mon Dieu. Oui ou non? Je choisis d'aimer mes frères et mes sœurs. Parce que j'aime mon Dieu, je choisis d'aimer mes frères, mes sœurs. Vous savez que aimer, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un commandement. Vous voyez? C'est pas un truc, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, bah, ça viendra peut-être un jour. C'est pas ça, c'est Dieu qui me commande. Tu aimeras. Donc, vous voyez, il y a des circonstances où c'est facile d'aimer les gens. Ils sont tellement aimables. Et il y a des circonstances, il faut que tu ordonnes à ton âme d'aimer. Ouh, alors, ce soir, il va revenir souvent, lui. C'est un commandement. C'est un commandement. Tu aimeras. Tu aimeras. Et même, l'Écriture nous enseigne que nous démontrons que nous aimons Dieu par le fait que nous aimons les frères et les sœurs. Je prie pour qu'un amour fraternel ardent embrase nos cœurs les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Ça ne sera possible que par l'action du Saint-Esprit en nous. Or, nous la réclamons, cette action, hein. Nous lui disons, Seigneur, remplis-moi de cette capacité d'aimer mes frères et mes sœurs. Moi, je me souviens, j'étais jeune baptisé dans la ville de Lyon. Et quelquefois, il arrivait, malgré la population très importante, parfois, je déambulais dans Cours Lafayette, le 6e arrondissement, comme ça, quand j'étais étudiant, je déambulais. Et il m'arrivait de rencontrer un frère de mon église. Je vous assure, ça procurait en moi des émotions. J'aurais rencontré un ange, c'était pareil. Oh, c'est un frère de mon église. Je me souviens encore, dans un bus, la ligne numéro 3, pour Lafayette, je reconnais à travers la vitre du bus un frère de mon église. Oh, Seigneur, c'est un bénis-le, Seigneur. Ouais. Ça, c'est, voilà. C'est le cœur simple, spontané, frais, qui doit régner en chacun d'entre nous. Et ce qui est le cas spontanément au commencement de la vie chrétienne, en vieillissant, quelquefois, ça peut changer, hein. En vieillissant, quelquefois, on voit de loin un frère, on change de trottoir, quoi. il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs. Parce que j'aime mon Dieu, j'aime le peuple de mon Dieu. Alléluia. Ruth nous le confirme. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Plaise à Dieu qu'un fardeau d'amour pour l'Église soit déposé dans notre cœur et que nous puissions vraiment tout faire, pour être en bénédiction à nos frères, à nos sœurs, que le Seigneur soit béni. Alors, à ceux qui ont été appelés, va dire Jude, qui sont aimés en Dieu le Père, et pour terminer, et gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes les pôles d'intérêt de toute l'attention de Dieu, nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Gardés dans le sens de destinés. Nous sommes destinés, nous sommes réservés, nous sommes mis en réserve. Nous sommes mis à part. Nous sommes gardés dans le sens que nous sommes maintenant dans un cycle préparatoire, nous sommes préparés un peu comme l'épouse qui se prépare pour le jour merveilleux des noces, nous sommes préparés. Il faut comprendre, frères et sœurs, qu'en acceptant le Christ comme sauveur, nous sommes entrés dans une école qui est l'école de Dieu, et dans cette école, Dieu veut nous préparer, il veut nous réserver, il veut nous garder. Et dans cette école, il y a tant et tant de choses que Dieu veut nous enseigner. Et je crois que toute la vie chrétienne doit ressembler à une école. Amen. Toute la vie chrétienne. Je suis appelé à découvrir encore des vérités, à faire des progrès. Pourquoi ? Parce que le point de mire culminant et glorieux, c'est le jour des noces de l'agneau. Et donc Dieu prépare, il sanctifie, il façonne, il éduque, il transforme, et de gloire en gloire, transformé à la ressemblance de Jésus, eh bien nous nous préparons. Nous nous préparons pour ce jour glorieux. Amen. Faut se préparer, hein. Alléluia. Hein? Notre vie chrétienne, bien sûr, il y a les occupations auxquelles on doit vaquer, c'est sûr. Mais il y a un objectif transcendant qui doit motiver notre aspiration, c'est se laisser préparer pour le grand jour. Pour le grand jour. Nous sommes gardés, nous sommes préservés. Nous sommes pris en charge par le divin potier qui va travailler notre caractère, qui va enlever les grumeaux, les éléments intrus et incompatibles avec sa sainteté. Il va nous travailler. Nous sommes en travail, nous sommes sur le tour du potier. Hein, on a chanté, hein, « Je ne suis qu'un vase ». Ben, je prie pour que, au final, Dieu fasse de nous des chefs-d'œuvre, des vases magnifiques, gloire à Dieu, amen, qu'il va pouvoir considérer et même présenter avec satisfaction, parce que les vases qu'il aura fait de nous seront en correspondance avec sa nature, seront à la ressemblance du Seigneur Jésus. J'entendais un jour un prédicateur dire ceci, et je termine sur cette parole. Quand Dieu porte ses regards sur nous, il veut voir Jésus. Amen. Alors je vous le dis en toute humilité, c'est pas toujours le cas. Me concernant, pas toujours le cas. Seigneur, change-moi encore. J'ai encore besoin que ton divin caractère s'instaure pleinement. Et finalement, c'est dans l'intimité de ta communion avec Christ au quotidien que tu vas permettre au Seigneur de te préparer, de te façonner, de te malléer, de te transformer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez ce que le Seigneur a dit pour ponctuer sa mission rédemptrice à la croix du calvaire. Tout est accompli. Tout est accompli. Et ça, c'est une expression que l'artiste prononce lorsque il fait une œuvre là, et il va pour, et il s'arrête, il dit, ah non, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Mon œuvre, elle est parfaitement achevée. Eh bien, je prie pour que, en portant ses regards sur moi en premier, hein, et sur chacun de nous, Dieu dise « Waouh !» tout est accompli. Mon œuvre de sculpture à l'image de mon Fils, le divin modèle, est maintenant parfaitement achevée. Qui ce soir va lui dire, Seigneur, transforme-moi encore. Amen. On permet